Bonjour chers auditeurs de Radio Fidélité, ici Véronique Slotnik dans l'émission Connaissances et témoignages consacrée à l'écologie humaine. Alors cette semaine et jusqu'au 19 janvier, le diocèse de Laval accueille une grande exposition à la maison diocésaine « Jérôme le Jeune, une découverte pour la vie ». Cette exposition nous offre de revivre 20 ans après la disparition de Jérôme le Jeune, qui est un homme exceptionnel. C'est un grand savant de renommée internationale, les débuts de la génétique moderne. Alors 50 ans après la découverte du chromosome surnuméraire à l'origine de la trisomie 21, la Fondation Jérôme le Jeune, dont nous avons longuement parlé à plusieurs reprises sur cette antenne, a lancé de nombreux programmes de recherche sur la trisomie 21, de la recherche fondamentale, de la recherche clinique, mais aussi des programmes de recherche internationaux. Mais que veut dire chercher pour la trisomie 21 ? En quoi la recherche médicale est-elle la course de fond dans laquelle la Fondation Jérôme le Jeune s'est engagée il y a 20 ans ? Pour répondre à cette question, j'ai le grand plaisir d'accueillir Thierry de la Ville-Jégu, directeur général de la Fondation. Bonjour monsieur.
Bonjour Véronique, je me permets de vous prénommer, excusez-moi, mais et de vous remercier pour tout ce que vous faites pour accueillir effectivement la Fondation Jérôme le Jeune à Laval et pour nous permettre de parler de ce qui nous est le plus cher, c'est-à-dire nos patients, tous nos petits patients, jeunes ou plus âgés, touchés par la trisomie 21 et qui étaient vraiment des enfants tout à fait chéris de leur médecin et de leur professeur Jérôme le Jeune.
Alors ces enfants chéris, vous faites de la recherche pour eux, vous les soignez, vous les accompagnez. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment la Fondation Jérôme le Jeune travaille-t-elle aujourd'hui pour ses patients ?
Alors je voudrais peut-être tout d'abord lever deux points qui, en amont, nous permettront peut-être de mieux comprendre ce que fait la Fondation Jérôme le Jeune. Le premier point, c'est en fin de compte, quel est l'objectif de la recherche. Historiquement, le professeur Jérôme Lejeune ne donnait évidemment qu'un seul objectif à la recherche, c'est-à-dire trouver des traitements pour les patients touchés par la trisomie 21 afin de les aider à mieux vivre, afin de corriger les désordres, notamment intellectuels, dont ils étaient atteints. Mais il y a eu pendant de nombreuses années une autre forme de recherche que naturellement la Fondation n'a jamais servi, qu'elle a toujours dénoncé, c'est faire de la recherche pour optimiser les techniques d'identification de la trisomie 21 chez les patients avant leur naissance, améliorer toutes les techniques dites de sélection, de dépistage, pour une finalité qui est l'élimination de ces patients avant leur naissance. C'est évident que c'est tout à fait une recherche que nous dénonçons, une recherche que nous estimons complètement étrangère à tout esprit de médecin, complètement étranger à, évidemment, l'esprit d'Hippocrate, qui est celui qu'a servi le professeur Lejeune absolument toute sa vie. Donc, voilà le premier point soulevé. Le second point, c'est de dire évidemment que chercher, ça signifie des conditions. Quelles conditions faut-il pour chercher ? D'abord, il faut le vouloir. Et je voudrais rendre hommage au professeur Lejeune qui, très très vite, très tôt, pour sauver ses patients dont il avait compris qu'ils étaient menacés non seulement par la maladie elle-même, mais par les moyens que la politique de santé générale mettait à la disposition des médecins pour les éliminer, tout de suite il s'est dit, eh bien, il faut chercher pour trouver. Et donc, le premier ingrédient que le professeur Lejeune, je dirais, a mobilisé, c'est celui du désir, de la volonté et de la conviction qu'on aurait un jour un des traitements au profit de ces patients. Et il a été le seul, je dirais, dans ce désert du désir, à prophétiser l'espérance et la solution. En tout cas, pas la solution, mais en tout cas la direction à prendre. Et puis, il s'est mis à travailler, il s'est mis à cette tâche, c'est-à-dire de comprendre la maladie, d'identifier les mécanismes dysfonctionnants et de proposer des stratégies. Bon, la mort est venu le cueillir avant qu'il ne voie des effets de ses efforts, de sa recherche, mais il avait semé non seulement des graines d'intelligence, de réflexion, de connaissance, d'inspiration scientifique, mais par ailleurs il avait semé des graines d'espérance, et je crois que c'est le premier ingrédient d'une recherche, c'est-à-dire y croire, être convaincu et vouloir effectivement que son intelligence de professeur, de médecin, soit au service de la vie et du mieux-être de ses patients. Ça, c'est un ingrédient fondamental. Et l'autre ingrédient pour chercher, c'est évidemment se donner les moyens de chercher. Bon, et les moyens de chercher, je dirais que c'est bien entendu des ressources humaines, des intelligences et puis des moyens financiers, des ressources financières. Et depuis une vingtaine d'années, donc depuis que la Fondation Jérôme Lejeune a été créée, le lendemain du décès ou quasiment du professeur Jérôme Lejeune, eh bien la Fondation s'est trouvée très rapidement la seule structure, la seule institution à financer de la recherche sur la maladie de la trisomie 21 et sur d'autres maladies d'ailleurs de l'intelligence. Aujourd'hui, je me réjouis de voir que nous sommes rejoints, non seulement par des chercheurs, de plus en plus nombreux, par le monde, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, par exemple, et qui cherchent des solutions thérapeutiques, qui cherchent des solutions concrètes pour contrecarrer la maladie, mais on voit aussi, et c'est heureux, eh bien, des fonds privés, pour l'essentiel, qui viennent financer cette recherche, sachant que, effectivement, la fondation a été l'inspiratrice de ce mouvement, a été pionnière de ce mouvement, et que nous avons, Dieu merci, aujourd'hui fait école. Donc voilà ce que c'est d'abord chercher, c'est mobiliser une énergie, une confiance, une espérance, et puis mettre en œuvre des moyens faibles, parce que naturellement les moyens du privé sont beaucoup moins considérables que ceux que peuvent mobiliser une institution, mais sachez que aucune institution, aucun service d'État, ni en France ni ailleurs, ne finance aujourd'hui de manière significative la recherche sur la trisomie 21, les efforts portant sur l'élimination de la trisomie 21 par éradication.
Alors, dans quelle direction cherchez-vous ?
Alors, pour mener des recherches sur cette maladie, il faut d'abord évidemment connaître la maladie et en connaître, je dirais, le cœur, les mécanismes. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez évoqué tout à l'heure, Véronique, que effectivement, la trisomie 21 est liée à un désordre très particulier, qui est en fin de compte une surabondance, un surpatrimoine génétique, avec ce troisième chromosome, cette copie du troisième chromosome qui vient se coller sur le chromosome 21 et qui crée une surcapacité, une surabondance génétique. Il y a un chromosome de trop, et ce chromosome de trop, eh bien, il produit trop de protéines, et la surproduction de ces protéines, eh bien, va créer des désordres multiples, plus ou moins importants, plus ou moins graves, et aujourd'hui, je dirais, plus ou moins faciles à corriger. Et le principal trouble créé par cette surabondance, c'est évidemment la déficience intellectuelle dont sont touchés les patients trisomie 21, avec d'ailleurs plus ou moins de gravité. Vous avez des patients qui peuvent effectivement connaître de grosses affectations, et puis d'autres patients qui, au contraire, ont, je dirais, des déficiences plus légères et auront assez naturellement une capacité d'autonomie beaucoup plus grande. Alors, quand on comprend les conséquences de cette surabondance de patrimoine génétique, on essaie évidemment d'identifier les gènes qui se trouvent sur le chromosome surnuméraire, le chromosome 21 surnuméraire, quels sont les gènes ou les séquences de gènes qui pourraient être les plus impliqués dans notamment le désordre intellectuel. C'est un premier travail qui a été rendu possible par l'extraordinaire évolution progrès du séquençage humain et naturellement du séquençage du chromosome 21. Aujourd'hui, les chercheurs ont identifié, je dirais, une dizaine de gènes qui seraient plus particulièrement candidats au désordre intellectuel. Et sur ces gènes, ces dizaines de gènes, aujourd'hui, il y a 3 ou 4 gènes sur lesquels les chercheurs ont porté leur attention, les suspectant d'être en quelque sorte les plateformes du désordre, c'est-à-dire probablement les gènes carrefours qui produisent le plus d'effets désordonnés. Et donc, le travail de ces chercheurs, ça va être de développer ce qu'on appelle une thérapie génique, c'est-à-dire un travail sur chaque gène afin d'en inhiber le plus possible la surexpression. Et parmi ces gènes, il y en a 2 sur lesquels la Fondation Lejeune a travaillé très particulièrement. C'est le gène CBS, dont on sait aujourd'hui, par preuve de concept, qu'il est parfaitement impliqué effectivement dans le désordre intellectuel grâce aux travaux réalisés sur les modèles souris. Et puis c'est le gène DIRCIN-A qui est lui aussi en corrélation avec le désordre intellectuel et probablement en interaction avec le gène CBS que je viens de nommer. Par ailleurs, il y en a un troisième sur lequel on est en train d'ouvrir nos enquêtes, nos analyses, nos études, en concertation avec d'autres chercheurs, d'autres équipes au niveau international, qui est le gène APP, qui est lui-même extrêmement impliqué dans la maladie Alzheimer, et on découvre, chemin faisant, qu'il y a effectivement des interconnexions entre la maladie Alzheimer et la maladie trisomie 21, ce qui, au passage, représente une très intéressante opportunité pour traiter la trisomie 21, puisque, comme vous le savez, sur la maladie Alzheimer, il y a des moyens financiers qui sont considérables. Donc, il peut y avoir des interactions tout à fait positives. Donc, voyez-vous, je veux dire que la première stratégie que Jérôme Lejeune lui-même a appuyé, a orienté, a dessiné, c'est une intervention sur le gène, c'est une stratégie de thérapie génique. Voilà. C'est un premier point très important. Alors, pour être plus concret, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, je peux dire que le gène DIRCIN-A a fait l'objet d'une recherche appuyée et qu'aujourd'hui, il existe notamment en Espagne, à Barcelone, un essai clinique qui a pu démarrer il y a 4 ans de cela sur une population de personnes trisomie 21, donc je ne parle plus de tests sur modèles animaux, mais vraiment un test sur un échantillon de patients, de 87 patients, et que cet essai clinique a produit des résultats dont on aura une lecture via une publication au cours du premier trimestre 2015. Nous aurons des résultats qui seront, positifs, qui ne montreront pas évidemment un déplacement spectaculaire, mais qui montrent parfaitement que l'on peut intervenir par voie de traitement, par voie de médicaments, sur cette pathologie et en réduire les effets. C'est un premier pas encourageant et qui montre bien que l'intuition première du professeur Lejeune, à savoir qu'un jour il y aura un voire des traitements de la trisomie 21 sur le marché, est en train effectivement de se réaliser. C'est un premier point extrêmement extrêmement positif, même si on peut pas en attendre, je dirais, un déplacement spectaculaire, on est en train de démontrer que l'opiniâtreté, la détermination produit des effets. Je vous ferai remarquer par ailleurs que ce travail démarré avec des moyens relativement modestes sur une maladie complexe, puisqu'il s'agit d'une maladie chromosomique, que chacune de nos cellules, quand on est trisomique est atteinte par la trisomie 21, chacune de nos cellules. Et donc c'est un travail, je dirais, qui touche absolument tout le métabolisme et intimement chaque cellule de la personne touchée par la trisomie 21. Et bien que, en dépit de cette complexité-là, on est en train de produire des effets positifs, démontrés, et qu'on est en train, en tout cas, d'affirmer qu'il y a un chemin de traitement qui existe. C'est plein d'espérance. Je viens donc assez longuement d'évoquer la piste du génotype, la piste de thérapie génique. Il y en a une autre qui est extrêmement intéressante, qui est la stratégie phénotypique, c'est-à-dire qui essaie de traiter les symptômes. La trisomie 21, comme vous le savez, c'est également un désordre intellectuel, ça se situe donc dans le cerveau, et ça touche le champ évidemment des neurosciences. Et à ce titre-là, grâce notamment à un extraordinaire travail, effort fait sur la connaissance et la compréhension du cerveau, nous savons que dans le cas de la trisomie 21, un certain nombre de transmetteurs neuronaux sont en panne, soit parce qu'ils sont trop excités, trop en abondance de production, soit au contraire une production réduite, et que la transmission de l'information aux neurones se fait plus ou moins bien. Il y a donc une stratégie qui est en cours, qui est portée notamment par un grand laboratoire international. C'est très heureux de voir aujourd'hui que de grands laboratoires viennent, je dirais, en recours pour la recherche de la trisomie 21. Il s'agit donc de travailler sur ces transmetteurs qu'on appelle transmetteurs GABA-A, et de pouvoir donc mieux réguler la transmission des neurotransmetteurs GABA. Un test clinique est en cours aujourd'hui, un test clinique dans plusieurs pays, dont en France et dont notamment effectivement à la Fondation Jérôme Lejeune. Là aussi, il y a un espoir thérapeutique extrêmement intéressant.
Alors cette étude a lieu en Espagne. Je crois qu'il y a un certain nombre d'autres études qui ont lieu de par le monde. Comment sélectionnez-vous les études qui sont faites? Je crois qu'il y a une bourse aux chercheurs. Comment ça se passe? Il y a un comité scientifique?
Oui, vous avez raison Véronique. La fondation s'est évidemment dotée très tôt d'un comité scientifique qui est animé par le directeur de la recherche de la Fondation Jérôme Lejeune, qui est également, je dirais, aidé par un certain nombre d'experts supplémentaires qui viennent jeter leur regard, qui viennent croiser les informations, qui viennent ouvrir les esprits, les intelligences et les stratégies pour essayer de d'optimiser évidemment la démarche. Nous avons un conseil scientifique qui est original en cela qu'il il est composé à la fois de chercheurs fondamentalistes, des spécialistes de la biologie moléculaire, des spécialistes de la génétique, des spécialistes de la du cerveau, des neurosciences, mais également des médecins, C'est une des choses, une approche très particulière à la Fondation Jérôme Lejeune, qui est évidemment liée à la nature même du professeur, qui était à la fois médecin et chercheur. Et le professeur Lejeune a toujours pensé qu'on ne pourrait travailler bien de manière concrète, de manière appliquée, que si on savait effectivement croiser ces deux chemins, ces deux terrains, ces deux approches, une approche plus fondamentaliste et une approche plus clinique. D'ailleurs, c'est également la raison pour laquelle l'Institut Jérôme Lejeune, qui est donc le bras médical, clinique de la Fondation Jérôme Lejeune, à la fois reçoit des patients en consultation, mais également développe, chaque médecin développe, un programme de recherche. Alors, soit un programme de recherche un peu fondamental, soit un programme de recherche sur les pathologies associées à la trisomie 21. Mais voilà, notre conseil scientifique est constitué de ces deux parties prenantes de la démarche médicalo-scientifique, chercheurs plus médecins. Donc nous avons une vingtaine de spécialités au sein de notre conseil scientifique. Il se réunit deux fois par an. Il reçoit à la suite d'appels à projets un grand nombre de dossiers, de demandes de subventions de programmes, qu'il étudie évidemment avec beaucoup de méticulosité. On reçoit près de 100, programmes par an. On en sélectionne et on en subventionne une quarantaine. Et depuis, l'existence de la Fondation Jérôme Lejeune, ce sont plus de 600 programmes qui, par le monde, ont été financés de manière directe par la Fondation Jérôme Lejeune. Donc il y a un phénomène, de d'identification des projets, de sélection des projets, de subvention, de soutien des projets eux-mêmes, qui fait école. C'est grâce à ce travail extraordinaire accumulé depuis 20 ans, grâce notamment effectivement à notre conseil scientifique, qu'il y a aujourd'hui une telle accumulation de données sur la trisomie 21 et qui permet effectivement de construire depuis quelque temps et bien entendu pour l'avenir des essais cliniques.
Alors, ces fonds sont constitués par des dons de particuliers uniquement ?
Alors, les fonds de la fondation qui finance effectivement la recherche est entièrement constituée de dons de donateurs français pour la très grande majorité et plutôt de petits, de moyens, de modestes donateurs fidèles, incroyablement fidèles à cette mission de recherche de la fondation. Et en ce sens-là, nous sommes extrêmement, touchés par cette confiance et cette espérance que nous partageons et qui nous permet effectivement de travailler avec une certaine tranquillité grâce à cette loyauté et cette fidélité du donateur dans la durée. Ça, c'est extrêmement précieux pour nous. Et c'est notre force. Et j'en profite pour remercier chacun d'entre vous, chers auditeurs, qui s'est montré un jour peut-être généreux à la gare de la Fondation Jérôme Lejeune. Soyez-en grandement remerciés.
Eh bien, monsieur de la Ville-Jégu, merci beaucoup de cet entretien. Moi, j'invite chacun des auditeurs de Radio Fidélité qui n'a pas encore bien connu la Fondation Jérôme Lejeune de se rendre à l'exposition de vulgarisation scientifique qui a lieu toute cette semaine à la maison diocésaine Cardinal Billet de Laval. Venez approfondir ce que vous venez d'entendre. Merci monsieur de la Ville-Jégu pour toutes ces informations et surtout n'hésitez pas à donner à la Fondation Jérôme Lejeune en vous connectant sur le site de la Fondation www.fondationlejeune.org, donc je répète www.fondationlejeune.org. Et bien sûr, si vous vous rendez à la maison diocésaine Cardinal Billet, vous pourrez trouver les dépliants à partir desquels vous pourrez faire un certain nombre de dons. Donc venez toute cette semaine, des équipes vous accueilleront et pourront approfondir cette discussion. Monsieur de la Ville-Jégu, merci de cet entretien.
Merci Véronique.
Et à très bientôt sur les ondes de Radio Fidélité.
Bonne année à tous.
Au revoir.